Alors, demain ou après-demain, vous allez vous rendre au Saint-Sépulcre. Et le Saint-Sépulcre n'est pas le signe immédiat de notre unité. Figurez-vous que la basilique du Saint-Sépulcre appartient physiquement à 6 confessions chrétiennes différentes. Les Grecs orthodoxes, les Franciscains au nom de l'Église catholique romaine, les Arméniens apostoliques, les Coptes orthodoxes, les Syriaques orthodoxes, les Éthiopiens orthodoxes. Chacun a décoré la partie de la basilique qui lui appartient suivant son goût et sa culture. Alors c'est un petit peu choquant parce que du coup ça manque un petit peu d'unité. Et puis surtout, chacun va prier dans sa langue, dans son rite, à sa façon, à des heures différentes de la journée. Alors est-ce qu'on n'est pas dans l'unité pour autant ? En fait, on est à nouveau beaucoup plus dans l'unité qu'il n'y paraît. D'abord, si la basilique appartenait tout entière à une seule confession chrétienne, les locaux de l'étape, qui sont les Grecs orthodoxes, on entrerait, nous les catholiques, sur la pointe des pieds, en sachant pas trop comment se comporter. Le fait que la basilique appartienne à plusieurs églises, ce sont tous les chrétiens du monde, de toutes les cultures, de toutes les confessions, qui se sentent autorisés à entrer dans la basilique. Et ils y entrent dans l'unité de la foi. Tous les chrétiens qui entrent chaque année dans la basilique, un peu plus de 2 millions de personnes, entrent avec cette foi partagée qu'ici le Christ est mort et qu'ici il est ressuscité. C'est quand même pas mal, en fait, d'unité. Cela dit, il n'en reste pas moins que la visite de la basilique du Saint-Sépulcre est un petit peu bizarre. Est-ce que vous êtes allé dans le désert ? C'était bien. C'est sensiblement plus désertique que les Landes. Hein ? Oui. Êtes-vous allé en Galilée ? C'était bien. Tout à l'heure, vous disiez que on est frappé dans le pays par les paysages de la Bible, par cette proximité qu'il y a entre le texte et ce que l'on voit. Et quand on est en Galilée et qu'on lit les évangiles, là où on voit Jésus appeler les apôtres, ou sur la barque et la tempête apaisée, ou le discours des béatitudes, on ne va plus lire l'évangile de la même manière. On aura des images en fond d'écran, ça va prendre une toute autre saveur. Et puis vous voilà arrivé à Jérusalem. Oh, Jérusalem, ça change. C'est différent. On a l'impression, même quand on est dans les ruelles de la ville, d'être plus à l'intérieur de quelque chose, puisque nous sommes à l'intérieur des murailles. On a peut-être moins le sentiment de nature. Et puis, généralement, les pèlerins vont visiter la basilique Sainte-Anne. La basilique Sainte-Anne, les Français l'aiment bien. Elle est belle, elle est propre, elle est silencieuse, elle est sobre, elle a une acoustique merveilleuse. Oh, on se sent bien à Sainte-Anne. C'est normal, c'est nous qui l'avons faite. C'est une église romane construite par les Francs, nous autres. Donc elle a tous les critères des églises auxquelles nous sommes habitués. Et puis on arrive au Saint-Sépulcre. Et là, c'est la dégringolade. D'abord, pour aller au Saint-Sépulcre, il vous faudra passer par le marché palestinien qu'on appelle le souk. Et vous allez vous apercevoir que la basilique est parfaitement inculturée à son environnement. Souk à l'extérieur, souk à l'intérieur. C'est la basilique du souk. Souvent, je rencontre des chrétiens qui ont plus de facilité à aller prier au mur occidental, improprement appelé le mur des lamentations. Vous voyez ? Vous le verrez aussi. Figurez-vous qu'un jour dans la rue, quelqu'un m'arrête et me demande « Où est le mur des réclamations ?» C'est pas un nom officiel. Et figurez-vous, je me demande bien pourquoi c'était un Français. À l'époque, j'ai pas vu s'il avait un gilet jaune ou quoi, mais... Combien de chrétiens je rencontre qui ont plus de facilité à prier au milieu du peuple juif, au mur occidental, qu'à prier dans la basilique de la résurrection au Saint-Sépulcre. Faut voir, Une fois qu'on est arrivé sur le parvis, on voit cette façade. Ça ne ressemble à rien. Il y a des quantités d'églises dans votre diocèse qui sont de l'extérieur bien plus belles que celle-ci. Quand on s'approche du seuil, on découvre qu'il n'y a pas devant nous une grande nef qui s'ouvre avec des bancs et puis la petite lumière rouge du Saint-Sacrement qui nous dirait où est Jésus. Non, pas du tout. Quand on arrive, on a d'abord l'impression de monde, du monde. Alors généralement, le guide regarde en haut à droite, là où se trouve le calvaire. En fonction du nombre de têtes qui dépassent, il va décider de l'opportunité d'aller tout de suite au calvaire, ou si c'est trop plein, et si le temps de visite du groupe est assez restreint, dans les écouteurs, là vous avez des écouteurs, dans les écouteurs il dira au groupe, prenez tout de suite à gauche, allez prendre la queue pour entrer dans le tombeau de Jésus. Au passage, on est passé devant une pierre. Autour de cette pierre, on voit des gens agenouillés. Ils la papouillent, ils la caressent, ils la stiquent, ils l'embrassent, ils l'oignent, ils posent dessus des tonnes d'objets qu'ils reprennent. On ne sait pas trop ce qu'ils font. On n'a jamais vu ça dans une église du diocèse. Mais on est obéissant. On va prendre la queue pour entrer dans l'édicule. Du latin ediculum, la petite maison. Cette petite maison qui sert d'écrin à ce qui reste du vrai tombeau de Jésus. Vous êtes allé aujourd'hui même, je crois, à Bethléem. Oui. Vous avez fait la queue pour descendre dans la grotte? Oui. Ça a duré longtemps?
Non.
Figurez-vous que quand un pèlerin fait la queue pour aller quelque part, il a une seule chose en tête, je suis en train de faire la queue. J'ai gagné 5 cm. Et il ne s'agit pas que la petite bonne sœur qui essaie de prendre la corde à droite, ça vise de me doubler. Moi aussi j'attends ma sœur. Vous allez donc faire la queue pour entrer dans l'édicule. Le père Michel vous a prévenu. Il vous a prévenu qu'il faut entrer dans le tombeau du Seigneur. Là où il y a le banc de pierre, le lit funéraire sur lequel on a déposé le corps du Seigneur après sa descente de croix. Si on a déposé là le corps mort de Jésus après sa descente de croix, c'est du coup logiquement le point GPS de sa résurrection. Finalement, vient votre tour d'entrer dans l'édicule. Vous entrez patatras, vous vous apercevez que vous n'êtes pas au bout de vos peines, vous êtes dans une première pièce, mais il y en a une seconde. Et c'est celle-là qui compte. Alors vous vous déhanchez pour voir ce qui se passe, parce que la porte est plus petite que la porte de l'humilité à Bethléem. Attention au lumbago. Vous avez vu que les gens sont entrés 4 à 4, qu'une fois entrés, ils se sont mis à genoux, généralement ils mettent les mains sur le lit funéraire, et quand votre tour arrive, vous entrez, vous jetez un coup d'œil circulaire dans cette pièce si petite, où il y a tellement de choses à voir que vous n'avez rien vu. Mais vous êtes là à genoux et tout d'un coup vous vous demandez, qui m'a demandé de prier pour lui au tombeau de Jésus? Je vous conseille de vous avancer dans vos réflexions et vos prières pendant que vous faites la queue. Pendant que vous faites la queue, pensez donc aux gens qui vous ont demandé de prier pour eux au Saint-Sépulcre et commencez donc les prières. Parce que à peine serez-vous rentré dans la deuxième pièce, là, au lieu de la résurrection du Seigneur Jésus, qu'un moine grec, très vite, avant que vous ayez fini un Notre Père, tapera à la porte et dira « Raus schnell !» Alors, c'est pas dit en allemand, mais on comprend qu'il faut sortir tout de suite. Actuellement, on en a un, il est là la moitié du jour, il parle en anglais aux pèlerins. Et il dit aux pèlerins, à peine sont-ils rentrés, il leur dit « Quick, quick !» Ce qui veut dire « Vite, vite !» Et il ajoute « Kiss and go, embrassez et sortez. Aïe, 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 aïe. À peine y étiez-vous qu'on vous demande d'en sortir. Alors là, je vous garantis que vous allez aller voir le Père Michel. Et vous allez lui dire, c'est nul le Saint-Sépulcre, excuse. Non, le désert, c'était génial. La Galilée, c'était chouette. Nazareth, c'était bien. Bethléem, c'était pas mal. On n'a pas mis trop de temps pour descendre à la grotte. Mais là, le Saint-Sépulcre. Oh non. Et on a des chances de sortir de là déçus. Eh bien, si c'est ce que vous vivez, bénissez le Seigneur. Figurez-vous que je vis ici depuis 20 ans, alors que je connais ce pays depuis 33 ans, et j'ai mis 19 ans sur 33 ans pour aimer la basilique du Saint-Sépulcre. C'est pour ça que je vous en parle ce soir, pour vous donner des trucs pour que vous l'aimiez plus vite que moi. Pour aimer la basilique du Saint-Sépulcre, j'ai mis le Seigneur au défi. Je lui ai dit, Seigneur, j'habite là, en vieille ville de Jérusalem, de mon lit. Je vois le dôme du Saint-Sépulcre, mais j'aime pas trop y aller. Et je pense souvent à tous les pèlerins qui ne peuvent pas venir, tous ceux qui ne peuvent pas venir et qui voudraient, en fait, passer quelques instants à cet endroit-là. Moi, je pourrais y aller tous les jours et j'y vais en traînant les pieds. Seigneur, il faut que tu changes mon cœur. Alors, je suis descendue au tombeau avec les évangiles sous le bras pour lire devant le tombeau tous les passages qui concerne la mort et la résurrection du Seigneur. Et en lisant tout ça, j'ai repéré le personnage des femmes. En premier lieu, Marie-Madeleine. J'aime beaucoup Marie-Madeleine. Une pécheresse amoureuse du Seigneur, ça me parle. Marie-Madeleine et ses amies, les autres femmes, qu'on va appeler un petit peu plus tard les myrophores, les porteuses d'encens. Marie-Madeleine regarde la façon dont les garçons descendent le corps du Seigneur de la croix, la façon dont il prépare son corps pour sa sépulture dans le tombeau. Et de leur point de vue, c'est ni fait ni à faire. Alors les évangiles ne le disent pas comme ça. Ce que nous disent les évangiles, c'est que les hommes descendent le corps du Seigneur, ils le mettent dans un linceul, ils le portent au tombeau, ils ferment la porte du tombeau, et voilà. Ils font à la hâte. Parce qu'on voit, nous disent les évangiles, les premières lueurs de Shabbat. Toute activité doit cesser. Et les apôtres du Seigneur sont des juifs et des juifs pratiquants. Et ce Shabbat, c'est le plus important de toute l'année juive, parce que c'est le Shabbat qui est à l'intérieur de la semaine de Pâques. Autant vous dire qu'ils veulent vraiment le fêter, mais ils ont un problème. Ce sont des juifs pratiquants qui viennent d'être en contact avec la mort. Ce qui, dans la loi juive, les rend impurs. Donc, impossible de célébrer Shabbat, sauf à dire avant des prières de purification. Je vous garantis que les apôtres sont drôlement pressés de mettre le corps du Seigneur au tombeau. Les femmes voient ça, elles se désolent. C'est ni fait ni à faire. Et comment sait-on qu'elles se désolent? Parce que dans les évangiles, un petit peu après, il nous est dit qu'à la fin du Shabbat, une fois qu'on peut recommencer les activités, les femmes vont aller faire du shopping. Et qu'est-ce qu'elles vont aller acheter? Des parfums et des onguents, des aromates, tout ce qui était nécessaire à la sépulture du Seigneur. Elles vont donc faire du shopping, mais comme il est tard, elles se disent, on ira demain aux premières lueurs du jour. La première à se lever, c'est Marie-Madeleine. Alors qu'elle est en chemin vers le tombeau, elle se demande qui va me rouler la pierre. Elle arrive, la pierre est roulée. Et pour vous aussi, demain, la pierre sera roulée. Elle entre dans le tombeau. Le corps du Seigneur n'y est pas. Quick, quick, elle sort. Elle sort parce qu'il n'y a rien à voir. Elle était venue pour le corps du Seigneur, mais il n'y est pas. Alors elle se met à le chercher dans les forêts du jardin. Elle voit un homme, elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas. Marie-Madeleine a devant elle le Seigneur ressuscité, elle qui en est raide dingue amoureuse, et elle ne le reconnaît pas. Eh bien, c'est un petit peu ce qui nous arrive quand on entre dans la basilique du Saint-Sépulcre. Il y a quelque chose qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas le jardin de la résurrection. On le prend pour la basilique la plus moche, la plus sale, la plus sombre, la plus chaotique qui nous ait jamais été donnée de visiter. Mais non, demain vous allez rentrer au jardin de la résurrection. Vous allez le faire comme Marie-Madeleine, le matin de Pâques. Finalement, Jésus, sous les traits du jardinier, se laisse reconnaître par Marie-Madeleine. Il l'appelle Marie. Alors elle le reconnaît et il lui dit « Va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. » Marie-Madeleine s'en va, elle va les prévenir. Pendant ce temps-là, arrivent ses amis, les mirophores, les porteuses d'encens. Elles étaient légèrement à la bourre, elles ne s'étaient pas réveillées. Elles entrent dans le tombeau. Le corps du Seigneur n'y est pas, mais elles voient un ange. Un ange qui leur dit « Il n'est pas ici. » Ça va, on a compris, on avait vu qu'il n'était pas là. Il n'est pas ici car il est ressuscité. Est-ce que les mirophores ont compris ce que ça veut dire que le Christ est ressuscité? Est-ce que nous comprenons dans nos vies ce que ça veut dire que le Christ est ressuscité? Dans nos vies, c'est pas sûr. Et l'ange ajoute, il vous précède en Galilée. Mince, vous en venez. Mais ce n'est pas pour ça qu'on nous parle de Galilée à ce moment-là des évangiles. Ce n'est pas pour qu'on retourne en Galilée. La raison pour laquelle on nous parle de Galilée, c'est parce que les apôtres sont galiléens. Ça veut dire que vous, demain, l'ange du Seigneur va vous dire « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Il vous précède dans le diocèse d'Air et d'Ax. C'est là que vous le verrez, ajoute l'ange. Alors mince, est-ce que vous avez acheté trop cher votre pèlerinage pour vous entendre dire que le Seigneur ressuscité, vous le verrez à la maison? Eh ben non. Non, 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 vous n'avez pas payé trop cher ce pèlerinage. Parce que cette visite au tombeau, similaire à celle des apôtres le matin de la résurrection, où nous trouvons une pierre roulée, où nous trouvons un tombeau vide, fait de nous des contemporains des apôtres. On devient contemporains des apôtres, mais du coup, chargés de la même annonce. Ce lieu vide est le vide le plus extraordinaire à contempler. Marie-Madeleine a fait ce que Jésus lui avait demandé. Elle est allée chercher les garçons. Pierre et Jean arrivent en courant. À l'entrée du tombeau, ils se penchent. Ils virent. Quoi ? Rien. Et ils crurent. Waouh ! Quel vide extraordinaire à contempler qui nous fait croire que le Christ est ressuscité, que la mort est vaincue, que le monde est sauvé. C'est fait. Le monde est beau parce qu'il est sauvé par la passion et la résurrection du Christ. Jésus n'est pas mort à moitié, n'est pas ressuscité à moitié, n'a pas vaincu la mort à moitié. Il a tout fait pleinement. Il a tout accompli de l'Écriture. Il a accompli le salut. Le monde est beau, mais pourquoi on a l'impression, et c'est vrai, et on peut se laisser atteindre par des virus, par des taux de chômage, par des gens d'autres religions parfois qui nous font peur, par des gouvernements parfois qui ne nous plaisent pas, par des brouilles en famille, par des divorces, par des morts qui nous pèsent. Pourquoi ça ? Mais parce qu'il nous revient à nous, les chrétiens, qui avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, d'annoncer à notre tour que le monde est sauvé et d'en vivre, de dévoiler le monde sauvé, le monde beau, d'enlever le voile. Oui, il faut se coltiner la souffrance. Oui, il faut se coltiner la mort. Mais en fait, il faut braquer et sur la souffrance, et sur la mort, et sur les peurs. Il faut braquer la puissance de la résurrection du Christ pour voir que ce n'est qu'une pellicule, parce que le monde, lui, il est sauvé. Vous êtes devenus, à partir du moment où vous visitez ce tombeau vide, des contemporains des apôtres chargés à votre tour d'annoncer la beauté d'un monde ressuscité et d'en vivre. C'est quand même pas mal comme expérience. C'est quand même fort. Alors vous, dans quelques jours, vous repartirez chez vous et moi, je reste scotché ici. Mais quelle chance j'ai d'être scotché ici. Figurez-vous que je suis journaliste. Et les journalistes, bien souvent, on leur demande de regarder les choses qui ne vont pas très bien. La situation des chrétiens au Proche-Orient, on ne peut pas dire que ça aille très bien. Pourtant, il va falloir la regarder dans un journal chrétien avec un regard d'espérance. Et puis, il y a des conflits dans cette région. Et vous l'évoquiez tout à l'heure en premier lieu, et parce que vous en avez aperçu quelques conséquences, le conflit israélo-palestinien. Est-ce que malgré ce dont on est témoin, malgré la souffrance dont des Palestiniens ont pu vous témoigner, est-ce que malgré ça, on peut regarder ce pays avec un regard d'espérance? Mais bien sûr, parce que c'est la terre que le Seigneur a choisie, donc il l'aime. Et quand le Seigneur aime quelque chose ou quelqu'un, c'est forcément pour son bonheur, pour cette terre aussi, même si encore aujourd'hui, il y a un voile. Alors figurez-vous que s'agissant du conflit israélo-palestinien, on me demande parfois « De quel côté tu es ?» À la blague. Parfois, il m'arrive de rencontrer des groupes de pèlerins de France. Ils n'ont pas d'origine juive pour la plupart d'entre eux. Ils n'ont pas d'origine palestinienne pour la plupart d'entre eux. Vous les mettez à mariner dans un bus pendant 4 jours et en fonction de ce que dit le guide, l'animateur spirituel, parfois le chauffeur, en fonction de la formation des uns et des autres, des Français de France refont entre eux le conflit israélo-palestinien pour savoir qui a raison, qui a tort. Mais on ne vient pas mettre ses pas dans les pas du Christ pour se bouffer le nez entre nous sur la base d'un conflit qui n'est pas le nôtre. Sauf que si on faisait un sondage parmi nous ce soir, peut-être qu'effectivement, parmi vous, un certain nombre d'entre vous, vous vous sentez à l'aise, par exemple, avec le peuple juif et l'État d'Israël. Peut-être que d'autres, en revanche, ont le souci des Palestiniens dont ils ont entendu parler et dont vous avez entendu les témoignages, en tout cas de ce peuple qui depuis plus d'un siècle réclame une autonomie politique et qui se la voit refuser. Et comment on fait quand parmi nous il y a des pros ceci et des pros cela? Comment on fait pour ne pas se battre? Ça fait 33 ans que je connais ce pays et que je l'étudie. J'ai un point de vue. Mais surtout, j'ai mis des années à essayer de traduire l'expérience que je vis ici, maintenant. J'ai pu traduire cette expérience grâce au pape Benoît XVI et à mon papa. Quand le pape Benoît XVI est venu en 2009, on venait de commencer à construire le mur de séparation. Vous l'avez vu en allant à Bethléem. Le pape nous a dit... Et il était littéralement au pied du mur dans un camp de réfugiés des environs de Bethléem. Il nous a dit « Ce pays n'a pas besoin de mur. Il a besoin de pont. » J'ai cru que Benoît voulait qu'on construise au-dessus du mur des ponts. Et je me suis dit « Benoît XVI est meilleur en théologie qu'en géopolitique. » Mais d'un autre côté, il est pape. Alors il a peut-être dit des choses que je n'ai pas comprises. Et j'ai compris un petit peu plus tard grâce à mon papa. Papa, pendant des années, m'a envoyé des emails tous les jours, vous voyez ce dont je parle, avec des pièces jointes. Le plus souvent, c'était des diaporamas. Et un jour, papa m'a envoyé un diaporama un petit peu particulier. Vous savez, quand vous habitez à 3500 km de chez papa-maman, vous avez intérêt à regarder le diaporama de papa, parce que le soir, avec la vidéocaméra, il vous fait une interrogation orale surprise. « As-tu vu ce que je t'ai envoyé ?» Et un jour, le diaporama, c'était la construction du viaduc de Millau. toutes les étapes de la construction du viaduc de Millau. Ça a pris un temps fou. Mais au moins, en regardant ça, j'ai compris ce que c'était qu'un pont. Quels sont les deux éléments architecturaux nécessaires à tous les ponts du monde? Pilier, tablier. Tout le reste, c'est variation sur un thème. Votre cœur penche du côté juif et israélien? Amen, alléluia. Construisez-vous sur le roc comme un pilier de ce côté-là. Découvrez l'histoire du peuple hébreu, l'histoire du peuple juif, l'histoire de la création de l'État d'Israël, ce qu'Israël fait d'extraordinaire dans son pays depuis 72 ans et parce que nous avons un gouvernement de sauvages. Découvrez aussi ce que l'État d'Israël fait de moins bien dans son propre État. Découvrez, s'il était nécessaire, l'horreur de la Shoah. Luttez contre l'antisémitisme, pied à pied. Découvrez la beauté de l'Ancien Testament. Je suis sûre que dans votre diocèse, il y a des propositions d'études des textes de l'Ancien Testament. Faites tout ce que vous voulez. Mais si votre cœur penche du côté juif et israélien, construisez-vous comme un solide pilier de ce côté où votre cœur penche. Si votre cœur penche du côté palestinien, eh bien faites de même. Construisez-vous comme un solide pilier de ce côté-là. Découvrez l'histoire de ces peuples non-juifs qui vivent ici continuellement depuis 15 000 ans. Ils ont une histoire, ils ont une culture. Finalement, ces dernières années, ils ont réussi à créer une autorité palestinienne. Découvrez ce qu'elle fait de bien avec le peu de moyens à sa disposition. Mais comme ce n'est pas le paradis non plus dans l'autorité palestinienne, et pour être honnête intellectuellement, découvrez ce qu'il y a de moins bien. Découvrez les chrétiens d'Orient. Ces chrétiens en Orient, la beauté de leur liturgie, la beauté de leur hymnologie, la beauté de leur foi. Ces chrétiens qui tiennent bon dans la foi depuis 2000 ans, dans cette région du monde, malgré les vicissitudes de la guerre. Découvrez les revendications politiques de ces Palestiniens. Pourquoi aujourd'hui ils refusent le plan Trump? Est-ce qu'ils refusent la dernière chance d'avoir un État? Mais est-ce que c'est un État digne de ce nom? Découvrez aussi un petit peu d'islam. Et s'il vous plaît, un petit peu plus d'islam que ce à quoi on veut bien le caricaturer en Europe. C'est pas facile de le découvrir, mais on le réduit un petit peu trop en Europe à ses extrêmes. Juste, si on était en guerre avec l'islam, on ne serait pas en guerre avec quelques dizaines de milliers de gens qui nous pourrissent la vie au Proche-Orient et en Europe, mais avec 1 600 millions de musulmans. Et si on était en guerre contre 1 600 millions de musulmans, autant vous dire qu'on le sentirait un peu plus passé. Ça veut dire qu'il y a d'autres expressions de l'islam que son radicalisme. En tous les cas, si vous vous êtes bien construit du côté où votre cœur penche palestinien, alors j'aurai un pilier d'un côté et un pilier de l'autre. Et quand j'ai un pilier de chaque côté de l'obstacle, qui est dans mon exemple le conflit israélo-palestinien, alors le Seigneur peut tendre le tablier du pont. Ça veut dire que nous, chrétiens, qui ne souffrons pas le même drame que les Juifs, qui ne souffrons pas le même drame que les Palestiniens, nous pouvons devenir concrètement des artisans de la paix dans ce pays en construisant des ponts, afin qu'un jour les Palestiniens et les Israéliens puissent les emprunter et se reconnaître, se connaître de nouveau, se découvrir, découvrir que dans leur altérité, ils peuvent vivre ensemble. Il y a sur cette terre 7 millions de Juifs. 7 millions de Juifs ne vont pas chasser dans le désert 7 millions de Palestiniens. 7 millions de Palestiniens ne vont pas rejeter à la mer 7 millions de Juifs. Ils sont condamnés à vivre ensemble, ils sont condamnés à se partager cette terre, mais ils ne l'ont pas encore acceptée. Et ne l'acceptant pas, et d'un côté et de l'autre, ils ne peuvent pas trouver les moyens politiques, la solution de leur propre paix. Mais nous, en acceptant d'être des éléments constitutifs de ces ponts de paix que les papes nous appellent à construire, nous pouvons les aider par la prière, parfois par les finances. Souvent, quand on entend autour de nous des gens parler du conflit israélo-palestinien, en calmant les ardeurs des tenants d'un parti ou de l'autre. Vous savez, dans vos campagnes, quand vous regarderez les ponts, vous penserez à moi. La dernière pierre qu'on met au-dessus de la pile, elle tend déjà vers l'autre rive. On a beau préférer un côté de façon plus naturelle, il n'empêche que quand on s'est bien construit, à un moment donné, on doit commencer à porter le souci du peuple qui est de l'autre côté, de l'autre pile. C'est comme ça, vraiment, que nous pourrons aider les chrétiens, et pas simplement les chrétiens de ce pays, tous les habitants de ce pays, à trouver les chemins de leur paix, en acceptant d'être nous-mêmes des artisans de paix à chaque fois qu'on entend des gens parler de façon un peu vive de ce conflit.
Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.